J'étudie hébreu moderne. Voilà. Du coup, j'obtiens une bourse pour partir en Israël pendant 2 mois, l'été de 1996, pour faire un cours intensif d'hébreu dans l'université de Jérusalem, hébreu de Jérusalem. Je suis ravie. Quel cadeau, franchement. Bon, je prends l'avion, j'atterris à l'aéroport de Tel Aviv. Et du coup, là, je dois prendre un taxi partagé, je crois que ça s'appelle. C'était un véhicule 9 places qui rassemble toutes les personnes qui vont dans la même direction, dans la même ville. Je prends mon taxi collectif pour aller à Jérusalem et je suis dans mes rêveries. Oh là là, je suis en Israël. Oh là là, comme c'est beau tout ça. Et du coup, les taxis arrivent à Jérusalem et à un moment donné, ils s'arrêtent à un feu rouge. Moi, je regarde par la fenêtre de droite et je vois tout un groupe d'hommes juifs ultra-orthodoxes. Vous voyez bien, noir intégral, chapeau, barbe, avec la tête de « je suis pas content ». Et qui vient vers mon taxi. Et après, je regarde vers la fenêtre de gauche et je vois un groupe de soldats israéliennes, genre métraillés au dos, qui courent vers mon taxi. Et alors, j'essaie de comprendre vite fait ce qui se passe, mais pendant que j'essaie de comprendre, je vois que mon taxi fait comme ça. En fait, il y a un groupe qui essaie de faire tomber les taxis. Voiture 9 places. Et l'autre groupe qui essaye de le remettre sur place. Et moi, que je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Soudain, toute mon émotion, comme on dirait, est retombée au sol. Le chauffeur, il a mis la première, je pense qu'il a grillé les rouges. Il est parti comme si c'était les débuts d'une course de Formule 1. Voilà mon arrivée à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi mon taxi s'est fait agresser comme ça? Oui, je pense que c'est Michel qui a dit. Parce que c'était les jours de Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est les Shabbat? Pour ceux qui peut-être ne sont pas au courant, c'est un des 10 commandements, rien que ça. Le 4e, que les commandements que Dieu a donnés à Moïse au nom du mont Sinaï, et ces commandements demandent d'arrêter, cesser l'activité laborale. Mais là, il y a Laurent qui arrive pour prendre la suite.
Alors, la première surprise, c'est que donc c'était pas Laurent, effectivement, maintenant c'est moi. La deuxième, c'est qu'on a souhaité faire cette prédication à deux aujourd'hui. Donc, vous avez 2 prédicateurs pour le prix d'un. Donc, le sabbat, effectivement, fait partie des 10 commandements. Et c'est un commandement un petit peu curieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, les 9 autres, on les respecte plutôt bien. On comprend bien qu'il ne faut pas tuer, tout ça. Voilà, ça va. Mais celui-là... Il donne l'impression de nous gêner un petit peu aux entournures. On ne sait pas trop ce qu'on est supposé de faire de ce commandement-là. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus qui semble s'asseoir assez allègrement dessus à plusieurs reprises, ou plus exactement s'asseoir sur l'idée que les religieux juifs de l'époque se faisaient du sabbat. Et en même temps, Jésus dit aussi que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors nous, on retient souvent que l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais en fait, il dit bien au début, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc ce commandement nous concerne, il a bien été fait pour nous. Nombreux sont les chrétiens qui passent à côté de la valeur du sabbat. Et j'en fais partie bien souvent. Je dirais même que c'est la raison principale de cette prédication, c'est que ça m'a fait beaucoup réfléchir, tout ça. La société qui nous entoure vit à un rythme frénétique, elle nous demande une production constante de laquelle il est bien difficile de se soustraire. On a des téléphones portables, on a les mails, on a les réseaux sociaux, on est joignable quasiment en permanence. On est incité à produire toujours plus, et en tout cas plus que le voisin, de faire mieux que lui, qui essaye lui-même d'ailleurs de faire mieux que nous. Bref, cette course incessante nous épuise, elle nous laisse à plat. Alors ce matin, on va se mettre à l'écoute de celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et on va tirer de notre lecture des leçons pratiques dans notre rapport au travail et à l'arrêt du travail. Est-ce que tu veux bien prier ? On va prier avant de lire le texte.
Merci notre Père pour ce temps que tu nous accordes pour réfléchir ensemble autour de ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu ouvres nos oreilles pour que chacun et chacune puisse recevoir ce dont lui ou elle a besoin et que tu ouvres la bouche de Laurent et la mienne pour que ça soit ta parole qui sort, Seigneur, et pas la nôtre. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors le texte qu'on va aller voir, c'est un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode. Si vous voulez aller chercher dans vos Bibles, c'est là qu'il faut aller. On va l'afficher, mais je vous laisse le temps aussi d'aller le chercher dans vos Bibles si vous le souhaitez. Ce sera au chapitre 20 et on va lire les versets 8 à 11. Donc Exode 20, en fait, c'est le premier passage où on voit le décalogue, c'est-à-dire les fameux 10 commandements. Et donc celui qu'on va lire là aujourd'hui, c'est celui donc qui concerne le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11, qui nous dit ceci. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les immigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. Alors dans le 3e mois après la sortie d'Égypte, où le peuple hébreu avait passé 400 ans en esclavage, Dieu va donner à son peuple par le biais de Moïse ce qu'on a appelé donc les 10 commandements ou les 10 paroles. Le sabbat, Anna l'a dit tout à l'heure, c'est le 4e commandement et il commence donc par « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ». Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'on est supposé travailler. Voilà. Il y a des personnes qui en sont physiquement ou mentalement empêchées, qui doivent être soutenues par la communauté humaine. Mais en dehors de ces situations qui existent et qu'il faut accompagner, on est supposé travailler. Pendant 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Cette éthique du travail qui est proposée par la Bible, elle se résume en une belle punchline de l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 10, qui dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, vous savez ce qu'il dit ? Qu'il ne mange pas non plus. » Bon, ça a le mérite d'être clair et assez facile à comprendre. Mais ce 4e commandement, évidemment, pose surtout la question de l'arrêt du travail. Il tient pour acquis qu'on va travailler et il pose la question donc de l'arrêt. On a parfois traduit « sabbat » par « repos », et on l'a vu aussi d'ailleurs dans ce même texte, mais plus exactement, le mot « sabbat » désigne le fait de s'arrêter, de stopper ses activités. Et la raison qui nous est donnée à cela dans ce texte-là, c'est que Dieu lui-même s'est arrêté pendant la création. Pendant 6 jours, il a créé, et le 7e, il a eu un temps de sabbat, il s'est arrêté. Et notez bien qu'il s'agit de ce Dieu dont la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, ça c'est le psaume 121, verset 4, ou encore qu'il est le Dieu d'éternité, l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Donc il ne s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué, Dieu. Ce Dieu qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, ce n'est pas reposer au sens où nous on pourrait l'entendre, ce fameux 7e jour. Il s'est arrêté. Il a arrêté son activité créatrice. Et ça, c'est déjà une piste intéressante parce qu'on pourrait être tenté de prendre un peu la tangente en disant, par exemple, « Non, mais moi, en fait, ce n'est pas vraiment du travail, c'est ma passion. » Et ton travail, c'est peut-être ta passion. Peut-être qu'il ne te demande pas tellement d'efforts parce que, en fait, tu aimes beaucoup ce que tu fais. Mais le sabbat, finalement, ne te demande pas d'arrêter que ce qui te fait suer, il te demande un temps d'arrêt pour Dieu dans tes activités habituelles, un temps qui est mis à part où tu ne vas pas faire ce que tu fais les 6 autres jours, de la même manière que Dieu a fait ça dans sa création. Il s'est arrêté. Et l'autre chose intéressante, c'est que Dieu, justement, justifie ce commandement en faisant appel au récit de la création. On l'a lu donc au verset 11, hein, « Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. » Et c'est la raison pour laquelle nous devons, verset 8, « nous souvenir du sabbat ».
Et du coup, puisqu'on a parlé de la création, on va voir où ça apparaît en Genèse 2. C'est toi qui as le... C'est chapitre 2, versets 2 et 3. « Le septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il s'est reposé en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre des créations qu'il avait accompli. » Du coup, on voit que le Shabbat, en fait, est antérieur au don de la loi. Et c'est la première chose à être nommée sainte dans la Bible. Dieu fait saint un jour, un espace de temps. Curieux. Peut-être ça peut vous étonner de savoir que beaucoup de Juifs nous diraient que le Shabbat, c'est la plus grande contribution du judaïsme à l'humanité. Il faut le mettre en contexte. Il faut penser que dans l'Antiquité, le fait de travailler six jours et de s'arrêter les septièmes était un fait inouï. On travaillait partout, tout le temps, Mésopotamie, Égypte, tous les jours, jusqu'à qu'on mourait, et point. Du coup, l'idée du Shabbat a été une vraie révolution à l'époque. Quand les Grecs et plus tard les Romains ont entré en contact avec les Juifs, ils se sont moqués d'eux. Ils les accusaient d'être fainéants, indolents, gaspillage du temps. Qu'est-ce qu'ils diraient ces mêmes auteurs, genre Hérodote, Tacite, Sénèque, s'ils levaient la tête aujourd'hui et ils apprenaient que la France a légiféré en faveur d'une semaine de 35 heures. Pour finir la petite parenthèse historique, en fait, les Juifs gardent les Shabbats depuis toujours, depuis la nuit du temps. Et on l'a lu, peut-être on ne l'a pas dit, c'est pour tout le monde. Ton esclave, ton bœuf, les animaux, l'étrangère qui habite avec toi. Donc, parmi les Juifs, même les étrangers, même les esclaves, à l'Antiquité, avaient un jour férié. Je disais, les Juifs gardent les Shabbats depuis toujours, mais la France n'a reconnu les jours hebdomadaires de repos pour ses travailleurs qu'en 1906.
Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit respecter le sabbat ? Alors, j'avais expliqué dans l'une de mes prédications, qui est un peu ancienne, donc je vais vous remettre ça en mémoire, que dans l'Ancien Testament, on trouve des lois cultuelles, on trouve des lois morales et on trouve des lois civiles. Et pour savoir quelles lois sont encore à appliquer pour nous aujourd'hui, la bonne méthode consiste à regarder ce que les disciples de Jésus font de ces lois dans le Nouveau Testament. Et ce qu'on observe, c'est que les lois morales sont appliquées. Et elles sont même parfois amplifiées. C'est l'exemple de Jésus qui dit « Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas l'adultère. Moi, je te dis que si tu convoites la femme de ton voisin, tu l'as déjà commis dans ton cœur. » Donc, c'est amplifié. Il y a des lois civiles qui, elles, sont appliquées aussi, mais dans leur principe. Donc, les lois civiles sont les lois qui régissent la vie en société. Et en fait, elles dépendent un peu du contexte dans lequel on vit. Et ça, on le voit par exemple avec Paul, qui prend une loi qui concerne les bœufs dans l'Ancien Testament, où il est dit tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Pourquoi ? Parce que le bœuf qui foule le grain doit pouvoir se nourrir du grain qu'il foule, en fait. Et Paul, dans le Nouveau Testament, en tire le principe fondamental, qui est valable qu'on soit dans un monde agricole ou ailleurs, que tout travail mérite salaire, en fait. Quand on travaille, on a le droit de manger, de pouvoir manger, se nourrir de son travail. Et puis, finalement, il y a les lois cultuelles qui, elles, sont caduques parce que la Bible nous dit qu'elles étaient l'ombre des réalités à venir qui se sont pleinement accomplies en Jésus-Christ. Donc, par exemple, tout le système des sacrifices dans l'Ancien Testament, Jésus étant le sacrifice ultime et parfait, eh bien, effectivement, on ne sacrifie plus d'animaux pour le pardon des péchés. Alors, la question qui se pose, finalement, c'est quel type de loi est le sabbat ? Dans quelle catégorie il rentre ? Alors, à chaque fois qu'on fait des catégories, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il y a toujours des choses qui sont un peu... on ne sait pas trop. En fait, le sabbat, c'est effectivement un commandement particulier. D'abord, il a effectivement une dimension culturelle, et ça, c'est Paul qui nous le dit en Colossiens 2, versets 16 et 17, quand il dit « Dès lors que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. » Donc on rentre dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Le sabbat fait partie de ces choses qui se sont accomplies en Christ, parce que notre repos, notre repos, nous le trouvons en Christ. J'ai cité au début Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ce qui était donc une ombre des choses à venir, c'était les aspects cultuels du culte, et de ce point de vue-là, le sabbat, il apparaît caduque. On n'a plus à le respecter. Sauf que, en second lieu, le sabbat a aussi un aspect moral. Les lois morales, c'est quoi ? Ce sont des lois qui sont immuables parce qu'elles concernent la façon dont Dieu a voulu le monde dès le commencement. Et précisément, le commandement du sabbat, on l'a lu, il est lié à la création. La justification du sabbat, là, elle est liée à la manière dont Dieu a créé le monde. Ça signifie que Dieu nous a créés de telle façon que nous avons besoin d'un temps d'arrêt dans le travail chaque semaine. On a besoin de ce temps. Alors, finalement, qu'est-ce qui est encore valable dans le sabbat et qu'est-ce qui ne l'est plus ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du cultuel ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du moral ? Ce qu'il est encore, c'est le principe du temps d'arrêt. C'est ça, l'aspect moral du travail, ce principe-là. Voilà, on voit qu'on a besoin de s'arrêter régulièrement pour reprendre des forces et, plus que ça, pour passer du temps avec le Seigneur. Ce qui est caduque, c'est très probablement le jour choisi, le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Ça, c'est l'aspect cultuel du sabbat. On est libre de choisir un autre jour, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'Église en choisissant le dimanche, qui est le jour de la résurrection du Seigneur, et donc ça faisait sens pour elle. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui est en jeu dans cette question du sabbat, parce qu'il y a une question évidemment éminemment spirituelle là-dedans. Et pour ça, on va aller dans un deuxième passage, qui est Deutéronome 5, versets 12 à 15. Et en fait, ce deuxième passage, c'est le deuxième endroit où on voit les dix commandements dans la Bible. Il y a deux passages, il y a celui de l'Exode qu'on a lu tout à l'heure, et puis il y a celui de Deutéronome 5. Et c'est intéressant parce que ces dix commandements, ils nous sont donnés, ils sont exactement pareils d'un côté et de l'autre, sauf concernant le sabbat. Il y a une distinction entre les deux textes concernant le sabbat. Alors je vais le résumer là, parce que bon, ça répète grosso modo la même chose, mais on lit « Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. » Et puis au verset 15, une autre justification nous est donnée pour observer le sabbat. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. » C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Donc on remarque que si en Exode, le sabbat était justifié par la création, ici, il est justifié par la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Eh bien parce que le travail incessant, c'est la marque de l'esclavage en Égypte. C'est là-bas qu'on travaillait 7 jours sur 7, j'allais dire 24 heures sur 24, je ne leur souhaite pas, parce que sinon ça ne devait pas durer longtemps. Mais en tout cas, tous les jours, et on travaillait dur sans s'arrêter. Ce qui signifie que le refus de s'arrêter, ce n'est pas neutre spirituellement. Refuser de s'arrêter, c'est se mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Et voilà en quoi c'est un péché. Dieu nous a rendus libres, mais nous retournons par notre refus de nous arrêter en esclavage. Ce temps d'arrêt hebdomadaire, c'est une marque de notre liberté et de notre appartenance à Dieu. C'est quand même pas rien. Alors, c'est culturellement à contre-courant, mais ce temps d'arrêt sanctuarisé dans la société productiviste dans laquelle on vit est sans doute appelé à devenir un marqueur chrétien, comme c'était un marqueur juif au temps de l'Empire romain. Oui, le chrétien est quelqu'un qui s'arrête. Un jour par semaine, il s'arrête de produire, il s'arrête de travailler pour se réjouir dans la présence de Dieu. Avec le texte, ça va pas l'aider.
Alors, maintenant, on va voir un dernier texte dans l'Ancien Testament. Ça se trouve en Lévitique 23. C'est ce chapitre où sont recensées les sept fêtes solennelles, fêtes de l'Éternel, que souvent nous on dit fêtes juives, mais en fait c'est écrit fêtes de l'Éternel. Et aussi, je voudrais dire, les mots fêtes par rapport à l'hébreu est très loin de l'idée, parce que le mot hébreu c'est moed, qui veut dire rencontre. C'est comme si Dieu, l'Éternel, donne des rendez-vous à son peuple. Et les Shabbats, c'est la première à être nommée. On est en Lévitique 23, verset 3. Durant six jours, on fera son travail, mais le septième jour est un Shabbat, un jour de repos. Il y aura une assemblée cultuelle et vous ne ferez aucun travail ces jours-là. C'est un Shabbat en l'honneur de l'Éternel partout où vous habiterez. Du coup, pour résumer jusqu'ici, le Shabbat, c'est un jour saint où le peuple d'Israël doit se souvenir de la création ainsi que de la révélation au mont Sinaï et faire ainsi génération après génération comme un signe de l'alliance avec Dieu. En ces jours saints, aucune personne ne doit travailler, ni aucun animal, même pas les esclaves. Du coup, il y a comme une justice sociale qui apparaît. Et encore plus, tout le monde, on le retrouve dans ces textes-là, doit se rendre à l'assemblée cultuelle. Le Shabbat, donc, n'est pas un jour d'inaction, des congés, des chômages, vide en soi. C'est un jour de contenu positif et actif, d'élévation spirituelle. Mais allons peu à peu. Pourquoi se souvenir de la création? Bon, c'est pour éviter l'idolâtrie des choses, du matériel, pour remettre les choses, l'argent, l'espace, les matériels à sa juste place. Tout a été créé par Dieu, même les astres, les animaux, les cieux et la terre. Et le matériel n'est pas une finalité en soi, mais un moyen. Nous, les hommes et les femmes, nous avons six jours pour intervenir comme Dieu dans la création. Et un jour, pour se reposer comme Dieu, pour laisser de côté la création et se concentrer sur les créateurs, pour oublier les matériels et se concentrer sur l'esprit spirituel. De tout cela découle que Dieu semble plus intéressé sur comment on gère le temps que comment on gère l'espace, quoique les deux soient étroitement liés. Il y a un penseur juif du XXe siècle qui s'appelle Abraham Yehoshua Heschel, qui était très important pour les Juifs du XXe siècle. Il disait que les chrétiens, nous, on s'était surtout investis dans l'espace. Et c'est pour ça qu'au long de l'histoire, on a produit des choses comme les cathédrales. Tandis que les Juifs, de leur côté, s'étaient investis dans les temps. Et leur cathédrale, selon lui, c'est les Shabbats qu'ils montent et démontent chaque samedi. Les Shabbats, en fait, luttent contre deux tendances innées en nous, si vous voulez, deux penchants mauvais. D'un côté, l'idolâtrie du monde, on est tous tentés de ça, hein. On vient de le voir, adorer la création au lieu du créateur, adorer les choses, la possession, les matériels, j'ai encore besoin d'un peu plus, hein. Et les Shabbats aussi luttent contre l'idolâtrie de l'homme, l'homme qui croit pouvoir vivre sans Dieu, ou pire encore, contre Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces temps de Shabbat? Peut-être nous regardons les Shabbats que gardent les Juifs aujourd'hui, les Juifs ultra-orthodoxes, comme une chose folklorique et on se moque gentiment de leur attitude, à notre avis un peu pharisaïque, d'interdire tout travail. En fait, c'est vrai que l'Éternel dit qu'il faut arrêter de travailler, mais il ne spécifie pas exactement qu'est-ce que c'est le travail. Dans l'Exode, il y a 12 tâches qui sont associées à la construction du tabernacle. Et du coup, les rabbins, tout au long de l'histoire, ce qu'ils ont fait, ils ont déduit des choses qu'on ne pouvait pas faire liées à ces 12 tâches, hein, et à les tâches de la construction du tabernacle. Et aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas cuisiner, on ne peut pas conduire, parce que quand on met en marche une voiture, il y a une combustion, et du coup, c'est comme si on allume le feu, et ça, c'est interdit. On ne peut pas faire plein de choses, ceci et cela. Mais pourquoi toutes ces interdictions? On va essayer d'observer la réalité du Shabbat, pas de l'extérieur, comme moi, quand je suis arrivée à Jérusalem, mais de l'intérieur, à partir des trois concepts clés pour les Juifs, quand ils remplissent les Shabbats du sens. Les premiers concepts, c'est la menoucha, le repos, par opposition au travail. Mais le repos, ce n'est pas une pause pour reprendre l'élan, et voilà, on recommence. C'est une pause active. Il faut arrêter de s'éparpiller dans tous les sens pour se concentrer déjà sur sa vie spirituelle. En fait, parfois, nous, on vit la vie, la semaine, comme du lundi au vendredi ou au samedi, il y a du sens, les dimanches. Bon, en tout cas, moi, je me souviens, quand j'étais petite, les dimanches étaient les jours les plus ennuyants du monde. J'avais tellement envie que ça revienne lundi. Par contre, la Bible nous présente pas seulement les Shabbats comme les jours saints que Dieu a mis à côté, des côtés pour nous et pour lui avec nous, mais aussi, si vous vous rendez compte, dans la Bible, les choses qui sont importantes ont un nom. Et les choses ou les personnes qui nous sont importantes n'ont pas de nom. Peut-être on ne voit pas ça dans la traduction, mais la semaine en hébreu, tous les jours, n'ont aucun nom. Dimanche, que c'est le premier jour de la semaine, s'appelle le jour premier, jour deuxième, jour troisième, jour quatrième, et ainsi jusqu'à les Shabbats, les septièmes. C'est les seuls qui ont un nom, parce que c'est lui qui donne le sens à toute la semaine. Du coup, 6 jours par semaine, on essaye de conquérir le monde, les septièmes, c'est pour essayer de se conquérir soi-même. Ensuite, le deuxième mot clé, ça serait la joie, oneg. Et ici, j'ai mis une opposition entre repas en famille, maison, amis, toutes ces imageries, par opposition à la vie laborale. J'entendais une fois un juif qui disait que pour eux, l'hôtel, c'est la table à manger, dans la salle à manger. Tellement de choses se passent parmi les repas. Mais les repas sont très importants aussi dans tous les récits bibliques. On vit la famille comme une bénédiction. Est-ce qu'on vit la famille comme une bénédiction? Souvent, le monde nous envoie ces images, ces idées de la famille. C'est une construction d'une mentalité patriarcale qui veut contrôler le monde. C'est la création de Dieu. Quand il crée Adam et Ève, il les crée en relation maritale pour la procréation. Ça s'appelle une famille. Et les mots clés, c'est la joie, onek, en hébreu. Alors, ça, on les retrouve en Ésaïe. Je pense qu'on a les textes. Ésaïe 58, de 13 au 14. Il dit, « Si les jours du Shabbat, tu te retiens de travailler, si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi les jours du Sabbat est un temps de délices, si ces 5 jours de l'Éternel, tu les tiens en estime, et si tu les respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir des longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. » Le Shabbat donc n'est pas une parenthèse nécessaire pour reprendre les langues. Quoique oui, mais surtout, et c'est là où se trouve la vraie vie. C'est un jour pour se souvenir qu'on n'est plus esclave du travail. Et il faut s'arrêter comme si le travail était fini. Et peut-être il n'est pas fini, mais on va croire qu'il est fini. Parce que cela demande de faire confiance à Dieu. Parce que c'est lui qui vraiment pourvoit à nos besoins et pas tous nos efforts de lundi à samedi. La famille, point de vue biblique, c'est les cadeaux à vivre et à célébrer les jours du Shabbat, probablement autour d'une table, avec un bon repas. C'est les jours où les pères juifs bénira chaque enfant, parfois en récitant la bénédiction à Aaronix, qu'on retrouve en Nombre 6, à voix haute. C'est quand la dernière fois qu'on a béni avec nos mots nos enfants, à voix haute, en public. C'est les jours où souvent on lit ensemble en famille Proverbe 31, c'est un poème que c'est la louange de la femme vaillante. C'est quand, la dernière fois, qu'en famille, on a remercié et valorisé les tâches que souvent fait la femme, qui ne sont pas mises en valeur parce que ça ne produit pas de l'argent, parce que ça ne sert à rien. Souvent, c'est encore la femme aujourd'hui dans notre société, mais ça peut être aussi l'homme. Hein. Ceux qui gardent les Shabbats font tout cela chaque semaine. Et je ne sais pas vous, mais tout cela ne me donne pas envie de me moquer, même pas gentiment. Plutôt, ça me rend jalouse. Alors, on a vu les premiers mots, c'était les repos. En Shabbat, on a le droit aussi de dormir, de se dire « je suis fatiguée, je dois dormir ». On a vu la vie avec les repas en famille par opposition à tout ce qui est vie laborale. Et le troisième mot, c'est la kedusha, la sainteté. C'est un jour, comme je dis avant, pour l'élévation spirituelle et pour le temps des célébrations communautaires, comme on fait maintenant, pour l'étude de la Torah, pour creuser la parole de Dieu, au lieu de se perdre peut-être dans des temps de loisirs individuels sans but. Aujourd'hui, quand je lis ça, je pense par exemple les temps devant l'écran, que ça peut être une chose très sympa, mais qui n'est pas très communautaire. Et Dieu veut qu'on se retrouve aussi avec notre famille spirituelle, les Juifs vont à la synagogue les samedis, nous à l'église les dimanches. Parce que oui, l'église aussi, c'est un cadeau qui nous est offert, notre famille spirituelle. Les réunions, les cultes sont des cadeaux pour nous, pas des impositions arbitraires. Je me souviens de ce que je vous disais, hein, quand j'étais petite, les dimanches, c'était oh, chez moi en plus, on regardait les foot l'après-midi. Et moi, je trouvais ça tellement ennuyant. Les dimanches, c'était un jour... Quand je commençais à aller à l'église, soudain, les dimanches étaient devenus les jours, les meilleurs jours de la semaine. Je vivais vraiment ma semaine en attendant d'arriver dimanche où j'allais retrouver l'église, mes amis. Je voyais que les seigneurs me parlaient. Il y avait des choses qui se passaient dans ma vie. Alors, est-ce qu'on va croire que l'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre, comme dit notre culture? Non. Les autres sont des cadeaux. La recherche de la sanctification, ce n'est pas que pour le bonheur de Dieu ou pour la récupération de connaissances. Non, c'est à son honneur. Mais on est les directs bénéficiaires, puisque plus on cherche le Seigneur, plus on puise dans sa parole et on l'obéit, plus on est transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Du coup, le monde affirme parfois que la terre est notre mère. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la Pachamama qui vient d'Amérique du Sud. Mais les Shabbats nous rappellent que Dieu est notre Père et Créateur, Créateur même de la terre. Le monde nous dit que le temps est argent. Les Shabbats nous rappellent que le temps est vie. Le monde nous dit que l'individu et ses droits sont la mesure de toutes les choses. Je ne sais pas si vous avez vu que de plus en plus, il y a des personnes tellement, cherchent leur individualité, qu'ils coupent les liens avec les ancêtres et ils coupent même les liens avec les descendants, non ? Définis par eux-mêmes, sans lien ni à gauche ni à droite. Les Shabbats nous rappellent que la famille et l'Église sont les communautés des vies où Dieu nous a plantés, où Dieu nous donne rendez-vous, Moed, pour nous faire fructifier et si on obéit à sa parole. Les Juifs doivent attendre toute la semaine l'arrivée du Shabbat avec émotion, avec expectation, avec joie, parce que c'est les meilleurs jours de la semaine. Est-ce que les dimanches, c'est les meilleurs jours de la semaine pour nous? Et ils sont tellement contents parce que finalement, on va se reposer. On va dormir peut-être. On va passer du temps en famille. On va manger des bons repas. On va s'habiller tout en beauté. On va étudier la parole, c'est-à-dire on va se nourrir spirituellement. Et tout cela rend heureux. Les Shabbats donnent du sens à la semaine. Ce n'est pas les jours de la semaine qui donnent du sens au Shabbat.
Alors je rebondis juste sur une notion. Elle a parlé des liens avec les ancêtres et des liens avec les enfants. Il y a des liens spirituels qui sont à couper, effectivement, avec les ancêtres et avec les enfants. Mais elle veut parler, évidemment, de la relation, de ne pas couper la relation. On est à la fin de cette prédication. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Alors, sans doute pas mal de choses. Je vous propose de retenir ceci. C'est ce que j'ai déjà cité deux fois. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça, c'est Jésus qui nous le dit. Et ça signifie que ce sabbat n'est pas à vivre comme une charge. Il est à vivre comme un cadeau. Comme un cadeau. Ce temps d'arrêt, Dieu l'a fait pour nous. Il l'a fait pour notre bien. Et plutôt que de lui donner un rythme annuel, c'est-à-dire 47 semaines de travail suivies de 5 semaines de congés durant lesquelles on essaye de se relever tellement on a été laminé tout le reste de l'année, Dieu nous propose, lui, un rythme hebdomadaire, 6 jours de travail suivis d'un jour pour le Seigneur. Et ce jour, il se prépare, c'est un jour qui s'anticipe. Quand il était dans le désert, le peuple devait ramasser le 6e jour la manne dont il avait besoin pour le lendemain, autrement dit, sa nourriture. Et il cuisinait aussi ce jour-là de manière à ne pas avoir à le faire le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'il se préparait pour vivre un vrai temps d'arrêt, pas un temps où on en profite pour faire tout l'administratif qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine, pour un vrai temps d'arrêt, chaque semaine, pour se souvenir que nous ne sommes pas Dieu, c'est pas nous. Nous ne sommes pas Dieu. Le monde ne s'arrête pas de tourner quand nous, on s'arrête. Le monde ne tourne pas grâce à nous. Nous ne sommes pas Dieu. Et également, pour ne plus vivre sous l'esclavage duquel Dieu nous a délivrés. Je vais prier. Seigneur, quand on y songe, c'est quand même incroyable que tu aies fait de ce temps d'arrêt un commandement dans ta parole. C'est incroyable que on soit obligé de t'entendre nous dire « Maintenant, arrêtez-vous, reposez-vous, prenez de la joie en moi, approchez-vous de moi. » Mais nous devons bien reconnaître aussi que dans notre propre vie, avec à la fois effectivement ce travail de plus en plus incessant, où on nous demande de moins en moins de couper, où on nous incite au contraire à être toujours de plus en plus connectés, toujours plus réactifs, nous devons bien reconnaître que cette parole, nous avons besoin de l'entendre. Peut-être aujourd'hui, plus que jamais, je ne sais pas comment c'était il y a des siècles, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre. Arrêtez-vous. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Seigneur, nous voulons faire nôtre cette parole. Nous voulons l'entendre. Nous te demandons qu'elle puisse s'ancrer en nous. S'ancrer en nous non seulement dans ce temps de période estivale qui est tellement propice à l'arrêt, mais surtout s'ancrer en nous pour le quotidien, quand on est dans le rush. Quand c'est compliqué parce qu'il faut s'occuper des enfants, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a des choses à gérer, parce qu'il y a de l'administratif qui nous tombe sur le nez. Seigneur, qu'on puisse se rappeler de cette parole. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Nous voulons apprendre à te faire confiance dans ce temps d'arrêt. Nous voulons croire, Seigneur, que ce temps d'arrêt ne nous empêchera pas de faire ce à quoi tu nous appelles. Et peut-être même mieux, que ce temps d'arrêt nous permettra de nous concentrer sur ce à quoi tu nous appelles et arrêter de nous éparpiller dans des tas de choses auxquelles, au fond, tu ne nous appelles pas. Nous voulons accepter qu'il y ait des choses qui ne soient pas finies, pas faites, des choses même qui peuvent peut-être nous sembler importantes. Mais tu nous as créés limités et nous voulons le reconnaître. Nous voulons reconnaître aussi que c'est une bonne chose parce que tu es Dieu. Et que nous sommes tes créatures, nous sommes tes enfants. Tu prends soin de nous, tu nous expliques comment le monde fonctionne, et tu nous dis que ce monde fonctionne pour nous avec un temps d'arrêt régulier. Seigneur, je te prie que tous ceux qui sont fatigués aujourd'hui, tous ceux qui sont peut-être, même en ce temps estival, pris dans cette course folle de la vie, puissent, dans la semaine qui vient, trouver ce premier temps d'arrêt. Ces premières 24 heures où tout s'arrête, les activités du quotidien s'arrêtent. Trouver cette confiance en toi, que non, ils ne vont pas prendre de retard. Que oui, tu vas leur fournir le temps dont ils ont besoin pour terminer ce qu'ils ont à faire sur les 6 autres jours, mais pas sur celui-là. Seigneur, que chacun aujourd'hui puisse prendre ce temps dans la semaine qui vient, puis dans la suivante, puis dans la suivante, et que ça ne s'arrête pas en septembre à la rentrée. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Voilà. Et puis